Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Et ce matin, je vous propose de préparer vos vacances d'été et vos voyages. Nos experts vous proposeront de partir partout en France. Gavin Clément Ruiz vous amènera dans le Tarn et l'Allier, Sandrine Mercier dans le Nord-Pas-de-Calais et en Ardèche. Et nos invités vous feront découvrir des endroits loin de la foule. La journaliste Christina Pelédouel vous proposera un voyage immobile, et Gavin Clément Ruiz également d'ailleurs, deux livres pour s'évader. À peu de frais, notre chef cette semaine, c'est Angèle Ferremague pour une recette de saison. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Ce matin dans votre chronique philo, une question de saison.
Qu'est-ce que vous faites cet été?
Je vous le dirai tout à l'heure. Philosophie de qu'est-ce qu'on fait cet été?
Exactement, et de cette petite musique cette obligation d'avoir quelque chose à faire pendant l'été.
Ouais. Bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali, qu'est-ce que tu fais pour les vacances?
C'est est-ce que tu viens pour les vacances de David et Jonathan. Je suis tombé dans le piège avant l'émission, je voulais diffuser chanson.
Mais c'est vrai que du coup c'est plus intéressant, il y a une pression. Ouais. Tu viens pour les vacances Ali ou pas? Tu viens ou pas?
Parce que moi j'ai pas changé d'adresse.
Moi non plus, j'ai pas changé d'adresse.
Alors donc la dame du vendredi qui ne peut pas s'empêcher de mettre son grain de sel tout au long de l'émission, quel est le film bienfaisant à voir ce week-end?
Eh bien une comédie qui a l'air comme ça, c'est exactement, ça ressemble à un club de vacances. On n'a pas forcément envie d'aller, on a peur qu'il y ait plein de clichés, et en fait, qu'est-ce qu'on se marre?
Et le titre?
Largué,
ça
oh, largué.
Ça parle?
Mais toi, oui, largué, oh combien.
Bonjour Maya Mazorette.
Salut, moi aussi je largue tout aujourd'hui.
La dame aussi du vendredi, qui ne supporte pas qu'on la vouvoie pendant sa chronique sexe, sinon ça casse tout. On se mettra donc tout nu en fin d'émission.
Exactement, bon, on voyage en France, mais
tous.
Pas seulement, la valise sera légère avec moi.
Allez, n'hésitez pas à participer à notre conversation, venez partager vos destinations en France cet été. Si vous avez la chance de partir, racontez-nous également si vous aimez voyager nu. 01 45 24 7000, sans oublier l'appli et le site de France Inter. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Angèle Ferremague.
Bonjour.
Vous êtes notre chef cette semaine. Vous venez de publier chez Marabout « Bon, simple et sain, mes petits plats du quotidien pour se faire du bien ». Tiens, ce soir, je sens que je vais me faire votre salade jaune d'été à base de maïs cuit, de tomates jaunes, de burrata et de basilic frais. Vous voyez, vous influencez mes soirées. Donc le plat du week-end à faire en famille ou entre amis en fin d'émission. Guillemette a déjà l'écrou.
Je vais vous expliquer comment voyager en France, en Asie, mais avec des produits français, avec des aubergines laquées au miso.
Oh là là. J'ai bien fait de vous faire venir, Angèle Ferremague. Mais on fait une bise quand même à Grégory Cohen. Aussi. Bonjour Gavin Clément-Ruiz.
Bonjour Ali.
Honorable secrétaire général du Guide du Routard, que j'imagine toujours en jeune cardinal épicurien à la cour du Régent. Je sais pas pourquoi.
C'est mystérieux.
Ali, il va falloir aller s'allonger un petit peu là.
J'imagine comme ça, je sais pas pourquoi. Je vous imagine que la fête commence avec Philippe Noiret.
J'adore.
Voilà, je sais
avec
pas
les mirbalais derrière là, qui nous attendent avec leur masque.
Qui sautent sur la table et qui commencent à dire d'énormes jurons.
Et parmi les derniers titres parus du Routard, chez Hachette, nos 52 escapades nature consacrées à la France. Un très bel ouvrage. Donc on va où donc tout à l'heure? Donc dans le Tarn et l'Allier, c'est ça?
Exactement, le Tarn et l'Allier, un petit tour vers le Cidobre, une région du Tarn que j'aime beaucoup, et puis l'Allier, l'Auvergne, ça va nous faire du bien, le nord de l'Auvergne.
Ah bah ça c'est pour Thibaut de Saint-Maurice.
Ah oui, moi je pars n'importe où.
Bah si, l'Auvergne.
Oui, beaucoup, j'y allais chaque été. Beaucoup. Ah bien sûr, oui.
Bonjour Sandrine Mercier.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef de la revue AR, non pas comme Ali Rébéi ou comme Arthur Rimbaud. Le melon du type en fin de saison, ça va plus. C'est pas très grand même où fasse tout ça.
Aller-retour, c'est comme aller-retour.
Évidemment. Comme Gavin, on reste en France cet été. Hein.
Oui, d'ailleurs, moi j'ai déjà les pieds dans l'eau. Là, je me suis renversé la bouteille dessus, donc je sors ma serviette. Non, on ira du côté, c'est les plus belles routes des vins. Nous, on ira entre Ardèche, Hermitage. C'est un trimestriel.
Il y en a beaucoup.
Il y a beaucoup de pages. Non, là, on ira en Ardèche, Hermitage, autour du Rhône, sur les côtes du Rhône. Et j'ai trouvé dans le Pas-de-Calais un petit vignoble sur un terril. C'est unique au monde.
Mais on va finir complètement bourré, Sandrine Mercier. Bonjour Christina Pelédouel.
Bonjour Ali.
Alias Lady Crumble dans certains milieux spécialisés.
Et on ne sait toujours pas lesquels.
Bah, demandez à Maya. Vous dit.
Non, je ne sais pas ce que vous dites spécialisé.
J'ai dit non.
Mais non, mais
ça fait un an, Ali, vous dites spécialisé.
Vous y mettez ce que vous voulez.
C'est la nouvelle pratique sexuelle, le crumbling.
C'est spécialisé en pâtisserie, on va être extrêmement déçus.
Non, mais ça commence bien.
Et vous êtes co-autrice du 10e numéro de la revue Grand Bien Vous Fasse, consacrée à la puissance des liens, toujours disponible en kiosque. Et la version poche du premier numéro consacré aux émotions est disponible en poche chez Pocket. Et on commence avec vous, ma chère Christina. Voyage immobile avec un type dont j'apprécie la plume. Il s'agit de Cédric Gras, géographe de formation, et qui publie Saison du voyage, qui paraît en poche chez Folio.
Exactement, chez Folio Gallimard. Alors, depuis qu'il est ado, Cédric Gras, il parcourt le monde, alors à pied de préférence, mais aussi à cheval, en vélo et même en moto, puisqu'il a fait partie de la célèbre équipée menée par Sylvain Tesson sur les traces de la retraite de Russie, dont vous avez sans doute déjà parlé, en tout cas que vous avez lu, j'en suis sûre. Cédric Gras, il a fondé les alliances françaises de Vladivostok et de Donetsk. Autant vous dire que ce type sait parler je ne sais pas combien de langues, qu'il est remarquablement cultivé, extrêmement intelligent et sympathique. Alors, il a publié un très beau livre il y a quelques années, en 2018, qui s'appelait « L'hiver aux trousses », où il avait eu cette idée absolument magnifique de parcourir d'ouest en est la Russie, en poursuivant l'été avant que l'hiver n'arrive. Cette idée était extraordinaire et ça donne un livre qui était remarquable. Et celui-là l'est tout autant, mais le thème est très différent. Là, il réfléchit à la question, à laquelle évidemment il n'y a pas de réponse, ou alors il y a autant de réponses que de voyageurs, de savoir ce qu'est le voyage et pourquoi nous voyageons. Pour lui, bien sûr, alors le voyage, c'est la liberté, mais ça, c'est une espèce de tarte à la crème. Tous les écrivains voyageurs vous en diront autant. Mais l'intérêt, c'est que là, il interroge en réalité deux pôles. Le premier, alors pas le nord ni le sud, non, deux pôles qui marquent ses voyages. Le premier, c'est la question de se faire face au monde tel qu'il est. Il ne refuse pas, ce n'est pas une fuite, il ne refuse pas de voir la mocheté du monde, les villes industrielles, la manière dont les paysages sont amochés, mais en même temps, et aussi, donc c'est ça qui rend la chose intéressante, c'est qu'il est évidemment à la recherche de la beauté du monde, des paysages les plus extraordinaires et des montagnes qu'il ne cesse de grimper.
Voilà. Il a un grand goût pour les steppes. Hein.
Un grand goût pour les steppes et pour la Russie, enfin pour la Russie post-soviétique. Il parle russe, il a vécu 10 ans hein, tout de même en Russie. Et le tout avec une écriture tellement poétique, je dirais même élégiaque, qui est tout à fait remarquable. Moi, je pense que Cédric Gras, on ne le connaît pas suffisamment. On parle beaucoup de tas d'autres écrivains voyageurs, mais celui-là, ça vaut vraiment la peine de le découvrir. Vous l'avez dit, il est géographe, donc ça se sent absolument dans tous ses récits. Et il emploie une formule que je trouve formidable. Il parle de lui et de la manière dont il voyage en disant c'est le gai savoir géographique. Voilà, je crois que là, c'est une définition parfaite. Est-ce que j'ai le temps de lire
un tout petit
morceau? Alors, il dit « Il faut partir à pas de loup sur les océans houleux, dans les ultimes sanctuaires, savourer les derniers refuges du sauvage. Mais la terre offre d'autres attraits, les dépeindre est un travail quotidien. Je me suis toujours rattrapée aux branches de la lecture du monde. Je m'étais vue explorateur au temps du bureau des longitudes, à l'intitulé si extraordinaire. Je suis devenue un simple voyageur emporté par la vitesse des transports autour d'une planète rétrécie. Je n'en suis pas moins comblée, je ne me suis jamais vraiment senti floué par l'époque. C'est dans ce monde-là que je me suis plongé la tête la première. Voilà tout le voyage aujourd'hui. Lire le monde partout, quel que soit ce qu'il nous raconte, observer les yeux grands ouverts, le regard, la vraie définition du voyage.
Cédric Gras, Saison du voyage, ça paraît en poche chez Folio. Tiens, Gavin, Sandrine, pourquoi est-ce que vous voyagez, au fond?
Moi, au départ, c'était par ennui. Enfin, je crois que je m'ennuyais là où j'étais et j'avais vraiment envie de l'expression voir du pays. J'avais vraiment envie d'aller me frotter à des choses pour avoir des effets waouh, pour rencontrer des gens différents, pour me sortir un peu de ma vallée, de ma montagne.
Allongez-vous sur le divan. Pourquoi vous vous ennuyiez dans la vie à l'époque, Gavin Clementrise?
Moi, je voyage pour revenir parce qu'en fait, j'adore le retour. Je suis riche de tout ce que j'ai vu de ces personnes qu'on croise, de ces lieux, de ces sensations, de ces bruits, de ces odeurs. Et quand on revient, je suis content de rentrer à la maison. Et puis, le plaisir de ce nouveau bagage, de cette nouvelle richesse. Et c'est vraiment le plaisir du retour.
Angèle Ferremag, on sent bien l'influence de vos voyages dans votre dernier livre.
Ah oui, moi j'aime voyager pour manger. J'aime manger la pizza.
Ah, voilà une version qui me plaît.
J'aime manger la feijoada au Brésil. J'aime manger le couscous au Maghreb. J'aime voyager pour manger ou manger pour voyager.
Je suis un peu comme vous, Angèle.
Mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. On peut.
J'aime bien cette définition assez simple.
Et saine.
Oui, et saine. D'une liberté aussi du corps, de la découverte du corps, des saveurs ailleurs.
Et vous m'offrez une belle transition avec le voyage immobile de Gavin Clementrise. On part au Japon et vous nous proposez un livre qui m'a l'air assez merveilleux et que je vais vous piquer de toute façon à l'issue de cette émission. Le goût sucré des pastèques volées. Le goût sucré des pastèques volées de Cheng Kei. C'est publié aux belles éditions Piquier. Moi, j'achète les yeux fermés avec un titre pareil. Hein.
Alors déjà, mon cher Ali, je sais que vous avez un tropisme pour le Japon, et je suis un peu déçu de vous le dire, mais ça se passe en Chine.
Ah, c'est en Chine. Au Hunan. Je me suis fait avoir.
Et c'est tout aussi sympathique, vous allez voir.
Mais bon,
le goût sucré.
Vous me pardonnez?
Bien entendu. Le goût sucré des pastèques volées, c'est le livre dont je parle avec gourmandise en ce moment. Je sais que vous allez me le piquer. D'ailleurs, je l'ai pas amené pour ça. Vous vous souvenez de ce livre, La première gorgée de bière de Philippe Delerme? J'ai envie de dire que c'est la transposition en Chine. Le goût sucré des pastèques volées. Déjà, le titre, j'adore. Ce sont en fait 75 petits textes qui sont illustrés par l'auteur elle-même. Elle est née en 73. Cheng Kei, exactement, c'est chez Piquier, et elle parle du passé. C'est un texte bourré de nostalgie, de scènes de la vie quotidienne, comme la lecture par exemple à la lampe à pétrole avant l'arrivée de l'électricité dans son village. Elle se souvient de ses soirées et elle se souvient aussi quand elle allait voler les pastèques avec ses frères dans les champs à côté de chez elle. C'est aussi des réflexions sur la vie. C'est plein de petits textes, donc 75. Le numéro 59 a attiré mon attention. Elle dit: évitez d'apprendre ce qui ne sert à rien. Pour méditer cet été, c'est parfait pour Thibaut, il nous dira peut-être après.
Se servir d'un compas, pardon.
On va réviser comme ça toute l'histoire de la Chine à travers ces petites sensations. Elle dit aussi: puisque chacun a des ailes invisibles, pourquoi ne pas choisir de s'envoler? Elle nous donne vraiment envie de nous recentrer, de nous envoler avec elle. Elle fait le bilan de sa vie à travers ses petits textes. Elle se dévoile aussi sans phare, mais avec beaucoup d'élégance. Alors, on les lit, ces textes, peut-être pas les uns à la suite des autres, mais on les grappille, on en prend un comme ça, c'est très court. On les goûte, comme à l'époque de Delerme avec sa première gorgée de bière. J'aime bien le texte « La beauté de la nuit au clair de lune » ou alors « La solitude, cette bête féroce ». Et aussi, elle parle de l'enseignement des livres qui l'ont beaucoup touché. Elle n'aime pas trop la télé, vous le verrez. C'est ce que j'ai aimé, c'est les micro-scènes qui reviennent sur son enfance, sur son grand-père, son souvenir d'aller à l'école pieds nus, dans les torrents d'eau, et puis les grenouilles qui passaient entre ses jambes. Et puis, le plaisir aujourd'hui d'acheter des chaussures rien que pour les contempler en se souvenant de cette enfance où elle était pieds nus. C'est vraiment un recueil plein de sagesse, plein de tendresse, et on peut vraiment le goûter comme ça tout l'été. On fait un beau voyage en Chine.
Voyage en Chine, voyage immobile en Chine avec le goût sucré des pastèques volées de Cheng Kei, publié aux éditions Piquet. Et vous l'aurez compris, Gavin, mon inconscient a parlé. J'aimerais que vous me parliez de Chine pour la dernière, la semaine prochaine.
Voilà. Mais tout à fait.
De Japon, pardon.
De Japon.
J'aimerais un voyage immobile au Japon, mon cher.
Chiche.
Angèle Ferremag, vous êtes adepte de la pastèque, je suis très prosaïque.
Alors moi, je vais être vraiment embêtante, mais la pastèque, comme je suis aussi naturopathe, ça fait partie des produits, comme le melon, qu'on devrait manger tout seul. Donc c'est moins rigolo parce qu'on a bien mélangé la pastèque dans nos salades et tout ça l'été. Mais en fait, c'est assez indigeste. Donc oui, j'aime bien la pastèque, mais seule.
Oh, avec un peu de feta, non, d'accord, ok. Bon, merci Angèle d'avoir cassé mon rêve d'une recette de pastèque. Guillemette Odissino.
Ah non, mais ça me donne très envie ce livre-là sur le goût de la pastèque. Et en plus, j'ai l'impression que c'est le genre de livre. Vous savez, quand on part en vacances, il y a les livres dont on sait qu'on va les emmener à la plage, qu'on va les trimballer dans le sac, ils vont être plein de traces de brunch ou de sable ou de
crème.
Et il y a celui qu'on laisse ou à l'hôtel ou dans la petite maison qu'on a louée ou sur la table de nuit des amis, etc., qu'on laisse et qu'on feuillette le soir après. Une fois qu'on a bourlingué dans la journée. Il y a des livres comme ça, il y a des livres pour chaque moment des vacances. Celui-là, c'est celui qu'on laisse tranquillement à côté du lit, je pense.
Je vous conseille complètement ça, ma chère Guillemette. Vous allez voir, vous allez mettre encore un peu de crème solaire dessus, sur la couverture, très très belle. Et les dessins aussi, vraiment, les dessins de l'auteur sont vraiment très très beaux. Vous allez passer un très bel été avec ce livre.
Et merci de ne pas l'avoir amené, Gavin.
À chaque fois, vous me piquez mon bouquin. J'en ai marre.
Allez, dans un instant, on voyage en France. Racontez-nous la France que vous aimez, vos destinations chez 01 45 24 7000. En attendant, on écoute Paul McCartney, Silly Love Songs. D'écouter Paul McCartney, Silly Love Songs.
Alors allons-y, franchement, hôtel des voyageurs.
Grand bien vous fasse.
Les Galapagos, les Aléoutiennes, je leur en fous, moi, des voyages.
Sur France Inter.
Grand bien vous fasse, loisirs et quelques propositions de voyage pour cet été.
Ce qui m'a fait voyager, c'était la curiosité de cette planète. Qui est 100 fois plus colorée, cocasse, vivante, passionnante que l'idée même que les meilleurs magazines pourraient en donner. Donc il faut aller sur place, il faut aller voir par soi-même. Il faut faire comme Gorky l'avait fait, prendre ses universités sur les routes.
Et non, Thibaut de Samory, ce n'est pas Jacques Chirac, c'est l'écrivain Nicolas Bouvier.
Ah oui.
Les vacances d'été pour aller voir par soi-même. Quelques conseils ce matin avec notamment Sylvain Bazin. Bonjour Sylvain Bazin. Sylvain Bazin, êtes-vous avec nous ?
Oui, je suis avec vous.
Vous êtes journaliste spécialisé dans la randonnée et les sports nature, rédacteur en chef du magazine Wider Outdoor. En français, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire un magazine de sport de plein air.
Et vous avez publié chez Grund les plus beaux endroits pour se ressourcer et chez Glénat, la France DGR. Bonjour Maude Coyard-Simon.
Bonjour.
Vous êtes la co-autrice chez Hachette, voir la France loin de la foule. Alors c'est assez malin, hein, me disait Sandrine Mercier avant votre intervention. Vous proposez deux options, une option très touristique à visiter et puis le plan B. C'est assez drôle. C'est ça le principe, hein, pour évidemment fuir la foule.
Exactement. En fait, on a donc listé 45 lieux qu'on connaît tous, qui sont connus pour leur paysage, pour les monuments, voilà, connus et reconnus. Et en fait, on a été chercher des plans B, donc en fait des lieux qui leur ressemblent beaucoup, tout en ayant aussi leur spécificité, pour proposer finalement une alternative et de sortir en fait des sentiers battus et d'aller un peu découvrir ce qu'on connaît pas ou ce qu'on connaît moins.
C'est très malin, hein, Sandrine Mercier. Hein.
Ah bah oui, parce que on dit tout le temps qu'il y a certains sites qui sont dégradés par le tourisme de masse. Alors bah là, ça permet effectivement d'avoir des itinéraires bis. Donc c'est une bonne idée.
Par exemple, on va en choisir un. Oui. Au lieu d'aller à Provins, on peut aller à Langres.
Et ça se ressemble. Citadelle magnifique.
Ça se ressemble d'ailleurs assez.
Entouré de lacs.
Au lieu d'aller contempler la fontaine moussue d'Aix-en-Provence, on peut aller contempler la fontaine moussue de Salon de Provence. C'est assez malin. D'ailleurs, bon, cet été, on va beaucoup partir en vacances. En France, Sandrine Mercier, c'est la grande tendance comme l'été dernier.
Ah ben oui, on va redécouvrir la France. On va pas bouder notre plaisir quand même, hein, puisque la France est multiple. D'ailleurs, je crois que les Allemands disent heureux comme Dieu en France. Donc on va se prendre pour Dieu et on va visiter notre pays.
En tout cas, Gevins, on va essayer de fuir la surfréquentation de certains lieux touristiques dans notre pays.
Exactement. Ben j'avais porté cet ouvrage magnifique, de voir la France loin des foules. C'est vraiment une belle idée. C'est tous ces pas de côté. Je trouve ça bien de pouvoir, redécouvrir. On se rend compte qu'on est quand même dans le plus beau pays du monde. À quelques minutes, à quelques heures de chez nous, on peut voyager pas très loin et se dépayser sans souci. Et là, on va encore en profiter.
Et oui, Maude Coyard-Simon, la France compte un nombre incalculable de pépites préservées du tourisme de masse.
Oui, complètement. Et c'est vrai qu'on a tendance, les réseaux sociaux ont beaucoup uniformisé nos envies. On a tendance à toujours regarder en fait du même côté, alors que finalement il y a plein d'endroits qu'on connaît pas et qui méritent autant le détour. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire, aller chercher ces lieux, qui sont donc à moins de 2 heures, parce que c'était la contrainte donc qu'on s'est mis, d'être à moins de 2 heures du lieu emblématique.
Alors on commence avec l'île Madame. Au lieu d'aller à l'île de Ré, on peut aller à l'île Madame. C'est votre premier conseil.
Voilà, exactement. Donc en fait, l'île Madame, c'est vraiment le côté donc plus sauvage de l'île de Ré. Donc c'est un petit îlet de 78 hectares qui se trouve dans l'estuaire de la Charente. Et en fait, il y a pas de pont pour y aller. En fait, c'est quand la marée est basse, il y a un chemin, donc la passe au bleu qui se dévoile. Et on peut donc l'emprunter donc à pied en vélo, pour aussi en voiture, mais c'est vrai que à pied ou en vélo c'est plus magique. Et on peut faire donc le tour de l'île à pied en vélo pour aller découvrir entre autres. Donc il y a juste une famille qui habite sur l'île, la famille Minot, et qui a une ferme aquacole. On peut aller découvrir l'élevage des palots, des huîtres, la culture de la salicorne. Et profiter de ces paysages avec l'océan qui est absolument magnifique.
Alors on peut y aller en train, en TER jusqu'à Rochefort. C'est environ 3h50 de depuis Paris. On prend une voiture de location, c'est ça. Et puis vous l'avez dit, attention aux horaires de marée. Hein.
Oui, c'est ça, parce que c'est déjà arrivé qu'il y en ait qui se retrouvent bloqués avec la marée montante. Et là c'est pas très drôle. Ouais. Donc oui, il faut bien regarder les horaires de marée. Et alors, j'ai envie de dire, effectivement, on peut arriver donc à Rochefort puis louer une voiture, ou si on a envie de, parce que l'île de Ré est quand même connue pour le vélo, donc si on a envie de tout faire à vélo, on peut aussi louer des vélos à Rochefort, et ensuite on a en fait 18 km de parcours pour rejoindre l'île Madame à travers les paysages de la Charente qui sont juste magnifiques.
Sandrine Mercier, on part avec vous dans le Nord-Pas-de-Calais, chère à notre collaboratrice Julia Macarez. On va où donc dans le Nord-Pas-de-Calais? Sur les terrils?
Alors voilà, on va sur les terrils. Et alors en ce moment, il y a un événement qui s'appelle Upper Noir.
C'est quoi ?
Vous connaissez peut-être le voyage à Nantes. Vous savez, oui, cette manière qu'ont des territoires d'imaginer des tas d'événements pour découvrir la ville et ses environs. C'est aussi sous le signe de l'art. Et ben là, du côté du Nord-Pas-de-Calais, donc ils ont lancé la première édition de Upper Noir et ça se termine ce week-end. Mais on peut y aller après toute l'année pour faire des tas d'activités. Et donc ils ont imaginé entre Valenciennes et Béthune de renverser les clichés autour du noir. Alors bien sûr, cette région, c'est le charbon. Hein, depuis pendant 3 siècles. Et donc, le noir, c'était sans espoir, on va dire, jusqu'à maintenant. Mais maintenant, ils ont proposé des idées vraiment originales. Et ça se décline aussi côté cuisine. Ils ont imaginé, par exemple, des burgers au pain noir, de la bière noire, de la barbe à papa noire, des glaces noires aussi. Donc, ils mettent du charbon dedans. Et là, je vous ai ramené des bonbons tout noirs. Et c'est un mélange de réglisse et de charbon aussi.
Non, merci.
C'est très bon.
Non, merci. Je suis pas la réglisse, non. Merci. C'est gentil. Oh, c'est gentil. Ça vient du cœur, c'est bien. Mais...
Ce week-end, ils vont faire un concours de tarte noire aussi. Mais alors voilà, ils ont décliné ce ça s'appelle donc Upper Noir ou Super Noir, enfin Upper Noir, et ça va se dérouler comme ça tous les 2 ans. Mais en même temps, il y a des tas d'activités donc autour des terrils. Alors moi, j'ai fait la rando 3B. Autour de la ville d'Hérin. Alors c'est 3B pour bicyclette, bière et barquette de frites.
J'allais dire autre chose. Mais...
Ouais. Et donc, on va effectivement. La mine et la bière, ça vous plaît. On a d'abord rendez-vous à la Bonne Bière. C'est une nouvelle microbrasserie à Hérin. Elle s'est installée sur une ancienne mine. Donc, on commence par déguster la bière noire. Et puis après, on prend le vélo et on se balade sur les terrils, les corons. Et on finit alors dans une friterie qui s'appelle Hérin. Et alors, on se marre avec le jeu de mots quand même parce que c'est une frite et rien d'autre.
Est-ce que les frites sont noires?
Elles peuvent être noires avec les patates violettes. Elles ont effectivement, elles peuvent être noires. Donc, ils ont tous décliné comme ça. Ils se sont amusés autour de cette couleur.
Angèle Ferremag.
Oui, alors il y a aussi la tarte au maroilles, bien sûr, moi je resterai plus là-dessus, ou la carbonade flamande. Mais en tout cas, juste Ali, pour vous rassurer, le charbon est excellent pour la santé, c'est anti-flatulence. Donc c'est pas du tout, il ne faut pas le fuir.
Qu'est-ce que vous insinuez, Angèle Ferremag?
Je parle à tout le monde, bien sûr.
C'est extrêmement à la mode le charbon.
Vous allez prendre mon bonbon noir.
Il y a des dentifrices au charbon, tout est au charbon en ce moment.
Donc le Nord-Pas-de-Calais ce week-end, et puis tout au long de l'été. Sylvain Bazin, un petit pas de côté, on part en Suisse avec, vous nous proposez le trek de l'ours, c'est ça ?
Eh oui, effectivement.
Ouais. C'est quoi ? Expliquez-nous.
Alors c'est un trek qui parcourt les Alpes du Bernoise, donc du canton de Berne. Et bah, c'est un sentier qui est à la fois plutôt facile et en même temps qui permet de découvrir parmi les panoramas les plus spectaculaires de l'ensemble de la chaîne des Alpes. Hein. Donc c'est pour ça que je vous propose cette petite incartade en Suisse. En plus, on peut rentrer facilement maintenant si on est vacciné. Il y a plus de problèmes. Dans quelques régions, il faut encore un petit test PCR négatif, mais tout va bien. On peut aller chez nos voisins et amis suisses. Alors c'est une randonnée qui nous transporte aussi un peu au 19e siècle, à l'époque des premiers touristes dans les Alpes, hein, puisqu'on croise le personnage de Sherlock Holmes hein, sur les premiers kilomètres du parcours, hein, sur la chute d'eau du Reichenbach. Hein, c'est là que Sherlock Holmes se bagarre avec le professeur Moriarty dans le dernier problème, et tous les deux ennemis disparaissent dans les profondeurs de la cascade. Donc c'est un lieu aussi parfaitement romantique, hein, et on se sent bien transporté. Aussi, on passe devant l'hôtel historique Rosenlau, où on imagine bien le docteur Watson débarquant avec ses lourdes malles. voilà, pour découvrir ces Alpes, et nous aussi on les découvre hein, puisque on est très vite sur des points de vue vraiment incroyables hein. On découvre la face nord de l'Eiger avec ses 1800 mètres de roche, c'est vraiment très très impressionnant, et en même temps on marche souvent à travers une montagne à vaches avec typiquement les vaches suisses, les vaches Milka qui sont un peu partout, mais voilà, environnés de ces géants hein, puisqu'il y a l'Eiger, la Jungfrau et le Mönch qui se dressent vraiment devant nos yeux. Après, sur la suite du parcours, ça se corse un petit peu. Hein. Il y a quand même des ascensions relativement physiques. Hein. On monte jusqu'au col de l'Ortulie, à 2778 mètres quand même. Hein. Mais on est quand même aussi récompensé par une vue absolument grandiose, hein, juste au bord du glacier. Et puis ensuite, voilà, on poursuit à travers alpages, bois, lacs, falaises, et puis aussi le charme de ces petits villages suisses au chalet très très coquet, très bien conservé.
Je sens que
c'est vraiment une très belle rando.
Je sens que vous avez convaincu Guillemette. Alors Guillemette, quelques chiffres, hein, si vous voulez faire le trek de l'ours en Suisse, 112 kilomètres, 6 jours de randonnée, 8200 mètres de dénivelé.
Oui.
Et puis une difficulté de 3 sur 5. Voilà.
Mais vous me regardez avec un air d'insolence, mais
non.
Tout ça me paraît tout à fait accessible. ne soyez pas dubitatif. Mais j'aimerais juste une petite récompense, quelque chose à la
fin. Vous marchez, vous ?
Mais je marche, très cher, absolument. D'accord. Je marche, mais après, il faut que je mange.
Ah voilà.
Ah, mais là, frites. Mais en Suisse, c'est très bien. Moi, j'adore. Si après, on peut me faire un petit rösti, voilà. Des pommes de terre avec un peu de fromage fondu dessus. Je marche tout ce que vous voulez.
Gavins, Clément Ruiz, Sylvain Bazin a parlé du pass sanitaire. On va avoir besoin du pass sanitaire quand on voyage en France. Dans quel cas on va en avoir besoin?
C'est tous les jours. Ça change un petit peu. Hein, c'est vraiment ce que je vous dis aujourd'hui.
On est encore dans l'incertitude.
Exactement. Ce que je vous dis aujourd'hui, ça risque de ne plus être à jour demain. Mmh. Donc il faut bien vérifier avant de partir dans un endroit, bien avoir ses tests, ses vaccins validés dans son application tous anti-Covid, avoir éventuellement l'attestation avec soi. Voilà. Et là, on est un petit peu dans l'expectative, et aussi les pays changent aussi régulièrement autour de chez nous pour le bassin méditerranéen. Est-ce qu'il va falloir un test antigénique? Est-ce qu'il faut un test PCR 72 heures avant ou pas? Ça change un peu tous les jours. Donc il faut bien vérifier auprès des ambassades, des offices de tourisme ou des départements pour savoir s'il faut quelque chose de particulier.
Mode de Coyard-Simon, une autre destination en France, loin de la foule, la grotte de Peck Merle, c'est ça? C'est le plan B de la grotte de Lascaux. On dit Peck Merle ou Pêche Merle? Je ne sais pas.
Pêche Merle, oui.
Pêche Merle.
Oui, exactement. Donc, c'est une grotte qui est dans le Lot, dans la vallée du Lot. Et en fait, c'est une grotte qui a été découverte 18 ans avant Lascaux, en 1922, par trois adolescents. Et en fait, ce qui est assez magique dans cette grotte, c'est qu'on visite toujours la grotte d'origine. Parce que c'est vrai que Lascaux, pour des questions de préservation, en fait, on visite la réplique maintenant. Et là, c'est la grotte d'origine, donc avec par contre des jauges. Voilà, il faut réserver sa visite pour pouvoir la découvrir. Mais en tout cas, c'est une grotte donc sur 2 kilomètres qui c'est un véritable musée souterrain en fait, parce qu'on a donc des peintures rupestres qui datent à peu près de 25 000 ans, qui sont absolument magnifiques. On peut voir aussi des empreintes de pas, il y a des mains aussi au pochoir, donc c'est assez émouvant. On a l'impression finalement de retrouver un peu les Cro-Magnons et de se remettre à leur époque. Donc c'est assez émouvant comme visite.
C'est donc on y va en train jusqu'à Cahors, c'est ça? Si on part de Paris,
oui.
C'est 5h30. Et puis ensuite, on prend la ligne Cahors-Figeac et on s'arrête à Conduché. Et ensuite, on prend un taxi et on arrive à la grotte de Pêche-Merle.
Oui, c'est ça. Alors, on peut faire à pied, mais je me dis un peu de côté, un kilomètre il y a, mais on peut aussi faire à pied. Mais bon, voilà. Un taxi pour aller plus vite.
Gavin Clement-Ruiz, je ne sais pas vous, mais j'ai une très grosse envie de Tarn.
C'est comme ça. Voilà. Ça vous prend là.
À 10h37, j'ai une envie de Tarn.
C'est tellement beau comme phrase.
C'est beau. On va la noter dans le petit cahier.
On dirait le titre d'un futur livre à succès. J'ai une grosse envie de Tarn. C'est génial.
Donc, on part dans le Tarn cet été.
Alors, mon cher Ali, vous allez avec le Tarn pouvoir faire une petite escapade nature. Et surtout, j'ai voulu chercher les endroits où on va avoir un peu de fraîcheur dans ce département où il fait naturellement chaud. Donc, où est-ce qu'on va trouver de la fraîcheur? Je vous emmène dans une région que j'aime beaucoup dans ce département du Tarn, c'est le Cidobre. Alors, le Cidobre, c'est où? C'est pas assez connu, j'aime bien. C'est pas loin de Castres. C'est une grande zone de nature. On est dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Et on vient pour ces gros rochers de granit qui sont vraiment énormes, on dirait. Ils ont des formes fantasmagoriques. Vous pourrez voir, alors là, avec les enfants, c'est génial. Il y a un petit éléphant ou alors un endroit, on a l'impression de voir un œuf de 800 tonnes qui est en équilibre sur un rocher. Il y en a un autre qu'on surnomme le chapeau de Napoléon. Il y en a pour tous les goûts. On se croirait chez un tailleur de granit géant. C'est génial. Et on peut faire plein de photos assez rigolotes. Vous verrez, les enfants vont adorer. Un autre endroit nature dans le Tarn, là, pour trouver encore un peu plus de fraîcheur, c'est le magnifique lac du Merle. Vous verrez, on a l'impression que les rochers affleurent littéralement de l'eau. On les voit sortir. On dirait des carapaces de tortues. Là, il y a un petit côté japonisant. Tiens, ça va vous plaire. Il y a des nénuphars aussi. Pas très loin, vous allez voir la cascade naturelle du Saut de la Truite. Là, parfait pour poser sa serviette. Il y a une autre cascade que j'aime bien. C'est la cascade d'Arifa. Pour y aller, on prend une petite passerelle, et puis on arrive tout d'un coup, on est au sommet et on voit cette cascade qui est en vasque sur plus, je crois que c'est 80 mètres de haut, et c'est vraiment, on se prend ces vents de fraîcheur là, comme ça fait du bien en plein cœur du Tarn, la cascade d'Arifa. Un autre endroit, si vous voulez voir que l'eau est vraiment omniprésente dans le Tarn, c'est Ambialé. Alors là, c'est une région qui se voit, j'ai envie de dire qu'il faut voir vue du ciel, Thomas Pesquet, si tu nous entends. c'est très beau. Il y a la rivière Tarn qui prend comme ça, qui tourne autour de cet isthme rocheux. C'est bien dit, ça, comme ça, un petit bout de rocher. Et au milieu, il y a un prieuré roman, une des plus vieilles constructions de cette région. Et on peut faire plein de balades à vélo dans les environs. On peut faire même du paddle. Et là, vous verrez des castors le soir.
Et on peut, super. Et on peut emporter le routard.
Et oui, le routard Tarn Nature et Patrimoine qui vient juste de sortir, donc ça tombe vraiment pas mal.
Ça donne envie. Sandrine Mercier, une destination qui plaira à Guillemette, l'Ardèche.
Ah, oui.
Hein, qui est chère à votre cœur.
Oui, d'ailleurs, je peux placer ma grotte Chauvet, ouais. Vite fait, parce qu'on parlait de la grotte Lascaux, faut aller voir la grotte Chauvet.
Ouais. Magnifique.
Moi, ça a été un choc. Enfin, évidemment, ouais. C'est une reproduction, hein. C'est la grotte 2. Mais c'est un choc, messieurs, dames, la grotte Chauvet, c'est magnifique.
Avant de passer à l'Ardèche, tiens, Angèle Ferremac, vous vouliez dire quelque chose sur le Tarn?
Oui, si vous allez dans le Tarn, n'oubliez pas de prendre une soupe à l'ail rose de Lautrec et surtout le fameux chichoulet. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, non. Mais c'est un plat typique de la région qui n'est pas très connu, qui est une sorte de cassoulet à base de pois chiche. Le chichoulet.
Ça a l'air pas mal du tout, ça, le chichoulet. Je ne connaissais pas. Merci, Angèle. Donc, on part en Ardèche, Sandrine, et on va manger aussi.
Soupe de châtaigne, là, c'est plutôt.
On va manger aussi, ouais.
Moi, je m'adresse à ceux qui vont filer sur l'autoroute du Sud cet été, en direction de la Méditerranée. Il faut absolument quitter cette autoroute A7. Il faut faire la route buissonnière, donc dans la région de Tain-l'Hermitage et de Tournon-sur-Rhône. On est donc à cheval entre Drôme et Ardèche. Il y a bien sûr ces paysages de vignes qui sont absolument magnifiques, hein, qui dégringolent comme ça des collines. On grimpe au sommet de ces pentes et on voit absolument tous ces vignobles de Hermitage, Cruz Hermitage, Saint-Joseph et tout, c'est vraiment magnifique. Il y a la belle vignoble et découverte, donc cet été il y aura des bars éphémères, il y aura des soirées vins et barbecue, des pique-niques dans les vignes, avec le vélo électrique on pourra se balader, on ne s'ennuie pas du tout sur les coteaux. On peut aussi, moi je vous conseille d'aller à la truffière de la Baume Saint-Antoine, c'est une sorte de ferme auberge pédagogique pour comprendre et déguster la truffe. Il y a le chien Gus aussi. On pourra, alors toujours pour déguster et parce que on va ajouter ces touches de Japon, alors pour vous plaire, je continue aussi, il y a le jardin zen d'Éric Borja. Alors là, on prend la sortie nord de Valence, 10 minutes en voiture, et là on quitte le monde physique pour entrer dans le monde spirituel d'Éric Borja. Ça fait 45 ans que cet artiste façonne un jardin infiniment japonais. C'est vraiment l'œuvre de sa vie et il l'a ouvert au public. Donc il y a des jardins de méditation avec gravier qui sont ratissés, vous savez, qui évoquent l'eau, l'élément eau. Il y a des étangs, il y a des cascades, il y a un jardin de thé, il y a des bambouseraies. Donc là, on écoute le vent qui agite les bambous, le ruisseau qui glougloute, et on est heureux. Donc, toutes les infos pour préparer votre voyage, c'est sur ardèche-hermitage.com. Et nous avons fait un très très beau podcast à écouter sur ar-mag.fr.
Merci Sandrine Mercier, et merci Sylvain Bazin. Et puis, je recommande vraiment... votre livre, hein, Voir la France loin de la foule. Il paraît que c'était votre anniversaire aujourd'hui. Pardon. C'était votre anniversaire aujourd'hui, c'est ça?
Oui.
Bah, bon anniversaire,
oui.
Alors. 30 ans. C'est beau. C'est loin. C'est si loin.
C'est injuste aussi, si je peux.
Et donc, votre livre, donc, est publié chez Hachette. Sylvain Bazin, on peut lire avec profit, donc, les plus beaux endroits pour se ressourcer. Vous reviendrez la semaine prochaine, pour nous donner d'autres conseils. Allez, il est temps, déjà, de retrouver la chronique de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'un télo, la philosophie. C'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser. Hein. Personne. Jamais.
Alors ce matin, avec vos petits bras, Thibaut de Saint-Maurice, vous vous attaquez à cette injonction de plus en plus forte et qui consiste à devoir réussir ses vacances.
Eh oui, Alien, alors tout commence par une petite question anodine. Et toi, et vous, tu fais quoi cet été? Et autre version, qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Donc, qu'est-ce que vous faites pour les vacances? Simple curiosité polie, me direz-vous, certes, mais à force d'être répétée, elle s'impose peu à peu comme une obligation de faire quelque chose de son été en général et de ses vacances en particulier. Comme s'il fallait donc absolument avoir à faire pendant les vacances. Alors même, paradoxe, hein, que les vacances expriment au sens strict la vacance, c'est-à-dire l'absence d'occupation, voire même le vide, la vacuité. En ce sens donc, la question est absurde et devrait appeler toujours la même réponse. Cet été, je ne fais précisément rien, parce que le temps de mes vacances est un temps libre, un temps où il n'y a précisément rien à faire, rien à devoir faire, puisqu'il est libre et non contraint par les normes ou les standards du travail.
Et pourtant, même en vacances, on ne fait pas... Excusez-moi, je tousse.
Rien.
Et pourtant, même en vacances, on ne fait pas rien, mais on fait autre chose.
Oui, bien sûr, les vacances sont une rupture, hein, un changement de rythme, d'environnement, d'activité, de paysage, de sensation. Mais si on y prend garde, s'installe la pression sournoise d'envisager ses vacances aussi comme un énième projet de son existence qu'il va falloir réussir. Cette question « qu'est-ce que tu fais cet été ?» eh bien, elle nous enjoint de répondre quelque chose qui va se trouver analysé, étudié, évalué, et puis qu'il va nous falloir aussi justifier et comparer aux vacances des autres, à commencer par celle de celui qui pose la question. Comme s'il fallait appliquer aux vacances finalement la même discipline que celle qu'il faut appliquer à son travail, comme si cette idéologie de l'épanouissement personnel par la réussite de sa vie ne nous laissait aucun repos et devait gagner jusqu'à nos vacances. La sociologue Eva Illouz, dans son livre « Apicratie », décrit parfaitement bien ce système social qui impose une nouvelle tyrannie du bonheur et de la réussite personnelle de son existence. « Nous n'avons désormais, dit-elle, d'autre choix que d'être responsables de notre bonheur. » Alors c'est apparemment une bonne nouvelle, sauf que cette responsabilité est bien lourde à porter. Elle ne tient pas suffisamment compte des difficultés objectives à le devenir, et puis elle ne nous laisse aucun temps de repos. Pour être heureux en ce sens, il y aurait toujours à faire. Et voilà que le temps libre, le temps des vacances, n'est plus si libre ou si vacant que cela, puisqu'il s'agit aussi de réussir donc ces vacances pour qu'elles projettent une image qu'on partage trop souvent sur les réseaux de vacances paradisiaques. Alors bien sûr, il n'y a pas de mal à vouloir passer de bonnes vacances et à en attendre du plaisir. Mais peut-être que pour que ces vacances soient bonnes, il ne faut pas qu'elles soient une nouvelle tâche à faire. Parce que de toute façon, une bonne partie du bonheur de ces vacances se fera tout seul, au gré des rencontres, de la météo, des humeurs, des détours, des plans B des uns et des autres, hein, mais surtout de la réserve de liberté qu'elles vont nous apporter. Alors vous ferez bien ce que vous voulez pendant vos vacances, libre de partir loin ou pas, de visiter 15 trucs par jour ou de buller sur un transat, mais plutôt que d'être habité par la pression de faire quelque chose à tout prix, peut-être vaudrait-il mieux se soucier davantage d'être un peu différemment, être plus détendu, plus disponible, être plus ouvert, pourquoi pas, et notamment à la possibilité pour quelques jours, de n'avoir rien de prévu et donc rien à faire.
Et je vous remercie mille fois, vous allez nous déculpabiliser, on va pouvoir dire cet été, je ne fais rien.
Je suis en vacances.
Guillemette Odissino.
Je suis tout à fait d'accord et il y a le verbe « faire ». Mais ça confine au verbe être. Quand on nous demande ce qu'on va faire pour les vacances, on est en train de nous demander tu es qui en fait. Est-ce que tu es snob parce que tu vas à tel endroit? Est-ce que tu es ringard parce que tu vas à tel endroit? Est-ce que, enfin, il y a au-delà même de la notion de remplir sa vie, il y a la volonté de nous cartographier, de nous géolocaliser même psychologiquement d'après la destination de nos vacances. Donc en fait, moi je réponds seulement je fais une salade de tomates et j'hésite entre mozzarella et feta.
Sandrine, merci.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a une pression et j'avais une amie américaine qui vivait à Paris qui me disait mais vous les Français, vous êtes toujours en train de parler de vacances. Alors avant les vacances, vous vous demandez et tu fais quoi pendant les vacances? Le mois d'après, vous êtes toujours en train de vous demander mais qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances? Et après arrive la Toussaint, on se propose et qu'est-ce que tu fais pendant les vacances de la Toussaint? Au mois de novembre, qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances? Au mois de décembre, qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances de Noël? Et bref, tout n'est qu'un long tunnel de vacances.
Gavin Clementrice.
Oui, il y a toujours aussi ce mot j'ai fait le Népal, j'ai fait le Tarn, j'ai fait. Non, je suis allé, j'ai posé ma serviette, j'ai rien fait dans le Tarn. Et donc, pourquoi pas, c'est ça aussi, ça fait du bien.
Vous faites quoi pendant les vacances, Angèle?
Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je suis complètement bouleversée par cette chronique exceptionnelle qui nous fait en effet déculpabiliser. Moi, je vais toujours à Saint-Paul-de-Vence voir ma famille dans la fondation familiale.
Ah,
et
bah
ensuite,
oui,
je vais en Italie parce que je ne prends pas l'avion, parce que c'est pas seulement par écologie, mais c'est parce que mon copain a peur, c'est un trouillard, et donc je passe mes vacances en Italie.
Et c'est vrai qu'on peut aller, évidemment, visiter la fondation MAG.
Je viens de comprendre, oui, mon Dieu, mais allez-y, à Saint-Paul-de-Vence, dans cette fondation, c'est magnifique. Ouais. Mais je la connais, mon Dieu, j'ai passé des tellement souvent dans cette fondation, dans le jardin et tout, c'est magnifique, allez-y.
Et ben, c'est la même famille qu'Angèle, voilà.
Là, bah, quelle chance, en ce moment, faut pas le louper.
Giacometti en ce moment, merci pour le programme, Angèle. Et on peut retrouver évidemment toutes les chroniques de Thibaut de Samory sur l'appli et sur le site de France Inter. Dans un instant, un film qui s'appelle Largué, c'est ça?
Oui, et qui dit exactement tout le contraire de ce qu'on vient de dire aujourd'hui.
Et puis on va voyager nu avec Maya Mazoret. Allez, en attendant, on écoute Mustang, Pôle emploi, Gueule de bois.
Tranquillement sur mon sofa et regarder Gordon Ramsay sur tes vins. Je vais commander une énorme pizza. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Je ne veux pas parler de l'avenir avec toi, de cette depuis des mois. As-tu l'impression que je suis en état? Tu t'es vu alors, ne t'étonne pas. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Toi aussi tu aimais sortir autrefois. On s'amusait tellement. Souviens-toi, on baisait même sous des porches parfois. On n'avait jamais la gueule de bois.
Mustang, interprété Pôle emploi, Gueule de bois.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
10h52, grand bien vous fasse loisir, et un film à voir entre amis ce week-end, Largué.
Maman, elle a 60 ans, je te rappelle.
Ouais, et alors, quoi, qu'est-ce qui se passe? À 60 ans, ça y est, t'es plus une femme. T'es mamie Nova, c'est ça?
Faut qu'on reste sur notre plan de départ, sauver maman. C'est pour ça qu'on est là, non?
Enfin, ça va pas, on va pas tuer papa.
Mais pas nous. Maman, elle est quand même partie avec une infirmière de 30 ans. Et on sait pas depuis combien de temps elle dure l'histoire.
Alors, donc depuis tout à l'heure, on parle de la France, on parle de très jolis chemins, de d'ismes dans le Tarn. Enfin, c'est absolument magnifique, c'est superbe. Ben moi, je vous emmène au club, au club, parce que il faut quand même être honnête. Il y a des moments, dans certaines périodes de sa
vie, soyons honnêtes.
Quand on divorce, qu'on a deux gamins, qu'on sait pas quoi en faire, ou quand on se fait larguer alors qu'on a 60 ans et que on n'avait pas prévu que son mari parte avec une infirmière de 30 ans. Eh ben, la seule chose pour se remonter éventuellement le moral, c'est d'aller au club, dans un truc bien organisé, où on va nous forcer à nous amuser. Donc c'est le principe du film, en fait. C'est Camille Chamou et Camille Cotin, donc vous voyez déjà le côté Camille... cesser, ne serait-ce qu'ensemble. C'est pas mal, vous mettez ça sur un volcan, plus ou moins, en fait, à La Réunion, et ces deux actrices incarnent deux sœurs totalement différentes qui sont dans un plan sauver maman, Miu Miu, qui au départ fait la gueule, mais d'une manière absolument extraordinaire, la déprime, mais sublime. Elles emmènent maman dans un club à La Réunion et il faut lui rendre sa gaieté. En fait, c'est surtout sa sexualité qu'elle va redécouvrir, parce qu'à 30 ans, évidemment, à 60 aussi. Donc Miu Miu, magnifique, qui redécouvre sa sexualité devant le regard quand même un peu étonné de ces deux filles, qui elles-mêmes vont découvrir à quel point leurs différences n'en sont pas. Du côté, d'un côté, Camille Cotin, rock'n'roll, très trash, portant des Santiago dans le sable, hein, c'est très pratique. De l'autre côté, Camille Chamou, petit bermuda, petite basket, et complètement free control, mais qui va aussi se détendre. En fait, c'est très drôle, ça dit beaucoup de choses sur la féminité, ça dit beaucoup de choses sur le fait que, justement, pendant les vacances, on fait ce qu'on veut, et qu'après les vacances, quand on est une nana et qu'on a redécouvert certains plaisirs, je pense qu'on va continuer aussi à faire ce qu'on veut à la rentrée.
Larguer le film à voir ce week-end entre amis et même en famille.
Avec des adolescentes, pas des petites filles de 12 ans, elles comprendraient pas encore.
Bon, allez, à 10h54, on se déshabille.
Ça y est, c'est l'heure. Pourquoi j'ai parlé du club? Parce qu'à un moment.
Merci pour ce lancement.
Maya, tu nous amènes en voyage, mais sans vêtements, tout nu.
Le naturisme, c'est quand même 2 millions de Français de plus en plus jeunes, 43% ont moins de 30 ans, pour un public essentiellement familial. 80% des naturistes partent en famille. Donc je vais en profiter pour vous parler d'un bouquin publié avant-hier aux éditions Hachette, Voir la France tout nu. Alors on y découvre évidemment des lieux splendides, mais aussi un tas de promesses, et je vous fais la liste. Le naturisme promeut la liberté, casse les barrières du paraître, égalise les rapports hommes-femmes, permet de mieux s'aimer, au contact du soleil, de l'eau et des plantes, dans un monde 0% textile et 0% bullshit, qui commence à ressembler méchamment aux brochures des Témoins de Jéhovah, vous savez, quand ils représentent le paradis, qu'on voit les enfants mignons manger des tartines au milieu des tigres et des tyrannosaures.
Mais cette promesse est plutôt chouette, non, Maya?
Oui, à condition de partir du principe qu'être nu va nous détendre, ce qui n'est pas complètement gagné, il ne faut juste pas se coincer de sable dans les parties génitales, ni s'asseoir sur une fourmilière, ni qu'il fasse trop chaud, ni qu'il fasse trop froid, ou trop humide, ou trop caillouteux. Quant à faire tomber nos complexes, on en a bien besoin. 40% des femmes sont complexées par leur physique et 20% des hommes. 18% seulement des Français se trouvent jolies. C'est presque deux fois moins qu'en Italie. Et pour la petite histoire, ça dépend de là où on habite. À Paris, on se trouve moche. Au bord de la Méditerranée, on se trouve belle. Alors peut-être que c'est parce qu'effectivement, à Paris, on voit beaucoup de publicité. Et à la plage, on voit plus de corps réels. Et en même temps, est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce qu'être libre du textile permet mathématiquement de se libérer du regard des autres et plus encore du regard qu'on se porte sur soi-même? À voir. C'est en tout cas l'ambition de la Fédération française de naturisme qui a lancé le mois dernier une campagne contre la honte du corps humain et de la nudité. Cette campagne, elle est visible sur le site stopbodyshaming.fr et on y voit plein de photos de vrais gens, des photos censées nous aider à entretenir un rapport moins névrotique à notre corps.
Moins névrotique et moins érotique ?
Oui, l'idée c'est en fait qu'en banalisant la nudité, on résistera à l'hypersexualisation, voire à la pornification du monde. Et en même temps, dans le bouquin dont je vous parlais, Voir la France tout nu, la liste des questions fréquemment posées raconte les inquiétudes des aspirants naturistes. Dois-je me raser intégralement? Que faire si j'ai une érection? Que faire en période de règles? Et là, les auteurs remettent les pendules à l'heure. Les hommes seuls sont les bienvenus, mais pas question de regarder les autres vacanciers avec insistance. Pas question non plus d'avoir des interactions à caractère sexuel avec son conjoint. Perso, j'appelle ça le bagne. Du coup, me demanderez-vous, comment est-ce qu'on fait si on a envie de voyage érotique? Eh ben là, on achète un autre guide, le petit futé de la France coquine. Et là, sur la couverture, la jeune femme, elle est habillée, mais manifestement, elle n'a pas prévu de le rester très longtemps. Je ne suis pas sûre que ce guide-là nous aide à casser les barrières du paraître, mais il va falloir choisir son camp. Maintenant qu'on a tombé le masque, il va falloir se décider entre faire tomber la chemise, faire tomber les complexes et faire tomber les tabous.
La chronique de Maya Mazorette à écouter en podcast. Il nous reste une poignée de secondes, hélas, Angèle Ferremac, de toute façon, vous reviendrez la semaine prochaine pour votre recette à base d'aubergines. En quelques mots, hélas.
Alors, très rapidement, je vais vous faire donc vous allez faire des aubergines laquées au miso. Donc, pour 4 personnes, il vous faudra 4 belles aubergines françaises, bien sûr. 2 cuillères à soupe de pâte de miso blond. Le miso, il vient du Japon, bien sûr, mais on peut le faire français
avec des mojettes ou des lentilles, par exemple, c'est assez dingue. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 4 cuillères à soupe de miel. On préchauffe le four à 180 degrés. On coupe les aubergines en deux. On les quadrille dessus. On met un petit peu de gros sel dans une passoire pour les faire dégorger, éliminer un petit peu l'eau. Et ensuite, on va préparer la sauce pour le laquer. Donc, on mélange le miso, l'huile, le sirop d'érable. Mmh. On dépose les aubergines sur une plaque de cuisson. On badigeonne bien avec le mélange et on enfourne environ 30 minutes. Les aubergines doivent être bien dorées, fondantes. C'est un délice. Et avec, vous pouvez faire une petite feta fouettée. Oula. Parce que la feta, on en fabrique dans le Tarn. Il y a 13 000 tonnes de feta qui sont produites chaque année dans le Tarn. Même si elle va devoir se retrouver un petit nom parce qu'elle n'a plus le droit de s'appeler feta dans 2 ans. Et voilà.
Ah, ça a l'air très très bon pour ce week-end. Merci beaucoup Angèle Ferreux, Mag. Et je conseille d'ailleurs votre livre à publier chez Marabout. Bon, simple et sain. Et vous reviendrez évidemment la semaine prochaine, Angèle. Merci à toute l'équipe de Grand Main Vous Fasse. Alexia Rivière, Julia Macarez, Céline Collinet, Stéphanie Texier, Claire Destacan. Et à la technique cette semaine, Clément Vier et Adèle Caglar. La programmation musicale était signée Muriel Pérez. Merci également aux standardistes de France Inter. Demain, je vous retrouve à 9h55 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien avec Agathe Le Caron, André Manoukian et Christophe. Lundi dans Grand Main Vous Fasse, on s'intéresse aux méfaits et aux bienfaits du soleil.